je me sens obligé de le rappeler à chaque fois, mais dans le duo, là, c'est moi, Meg White. Okay? Il est 15h03. Vous êtes à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour. 18 degrés sous les nuages. 40% les chances de pluie d'ici la fin de l'après-midi. Par contre, ce soir et cette nuit, il pleut. C'est 10 à 15 mm au sol. Ça reste confortable. Minimum de 13 degrés sur le fond. Demain, des averses en matinée, nuageux pour la suite des choses avec un maximum de 23 degrés. Du temps variable mercredi avec un maximum de 21. Tranquille sur les routes, c'est une journée comme ça. 418-971-1021. Par contre, au niveau de l'actualité, nouvelle de dernière minute concernant Sam Ahmad qui a été appelé à réagir sur les dernières trouvailles de son candidat dans Saint-Roch.
Oui, il a donné une entrevue à Radio-Canada pour ce soir, puis je vous en ai parlé tout à l'heure, là, le candidat de Leadership Québec dans Saint-Roch qui, depuis vendredi passé, a fait couler beaucoup d'encre. Un, quand il a été rencontré par les médias en parlant de sa vision de Saint-Roch. Mais en plus de ça, bien, les médias sont mis à aller chercher aussi sur des groupes de discussion puis sur des groupes Facebook d'autres propos qu'il a tenus au courant de la dernière année. Sam Ahmad qui a dit qu'il n'endossait pas les propos de son candidat Napoléon Houx sur l'itinérance et le travail des organismes communautaires, mais qui n'avait pas l'intention de lui montrer la porte. Entre autres, parmi les propos, il disait que les organismes communautaires profitent de subventions, qui aiment ça, comprenez bien, là, qu'il y ait de l'itinérance parce que c'est une industrie qui est payante pour eux. Fait que c'est des drôles de
propos.
C'est
lourd de sens.
C'est très lourd de sens.
C'est paradoxal de dire « j'endosse pas ce qu'ils pensent de la situation dans Saint-Roch, mais c'est mon gars
c'est mon champion
pour les solutions dans Saint-Roch. »
Il considère comme son champion. T'sais, un champion, quand tu parles de ça, c'est la personne qui va arriver avec les solutions puis qui va être celui qui va être le meilleur porteur de dossier.
Ce que je trouve particulier, c'est quand tu choisis un candidat, tu fais pas un check-up avant. Puis ça, moi, avant de dater quelqu'un, je fais un check-up Google. Il n'y a pas une équipe qui regarde en arrière voir s'il n'y a pas des choses sur les réseaux sociaux.
Puis dans le cas de M. Wu, c'est juste quelqu'un qui est très public sur sa façon de voir l'itinérance et Saint-Roch. Il y en a plusieurs qui vont dire il n'y a rien de surprenant là-dedans. Ouais, exact.
Sa maman a rajouté, c'est un citoyen frustré. Il a vécu l'itinérance, ce qui se passe actuellement dans Saint-Roch depuis des années. Il habite là depuis 65 ans. Il dit qu'il promet de travailler de concert avec les organismes communautaires pour faire face à l'itinérance dans les quartiers centraux. Il dit, je suis un ancien président de la Fondation de l'Aube-Rivière. Je sais comment les bénévoles travaillent. Ils ont besoin d'aide. Fait que, il y a de la discordance entre les deux discours. Puis il y a eu des réactions. Bon, Bruno Marchand avait réagi la semaine passée, mais a réagi encore aujourd'hui sur les médias sociaux. Mais tu as aussi Jackie Smith, qui, elle, son poste est là. Ils ont installé leur local de campagne carrément sur Saint-Joseph en disant...
Dans l'ancien Benjo.
Exact. Elle dit, je comprends mal comment un ancien ministre de la Solidarité sociale peut présenter un candidat dans Saint-Roch qui ne croit pas fondamentalement que le communautaire fait partie de la solution.
Elle n'a pas tort, je trouve.
Elle a vraiment pas tort.
Pour vrai,
c'est bizarre, c'est bizarre. Il reste des choses à éclaircir, je trouve, entre la vision de son candidat dans Saint-Roch puis la vision de Sam Ahmad, qu'on n'a toujours pas, d'ailleurs, pour Saint-Roch au moment où on se parle.
Si vous pensez qu'on exagère, je vous invite à aller réécouter l'entrevue de ce matin, BLVD.fm, alors qu'il venait dans Marceau le matin, puis il y a des questions qui lui ont été posées. Il est où votre programme? Il n'est toujours pas disponible sur votre site, puis je peux comprendre que quand on l'a talonné, il y a une couple de mois qui nous répondent « Hey, c'est encore loin, la campagne électorale. »
Là,
il a commencé
dedans,
depuis trois jours. Puis toutes les autres parties ont toutes présenté quelque chose. Lui, il continue le striptease, puis il manque de tangible, puis ça fait qu'on porte attention beaucoup plus à des éléments d'importance comme celui-là.
Il est 15h07 à Boulevard, c'est Gravel dans le retour. On a le plaisir de l'accueillir alors qu'elle débute sa 15e année à la radio. Moi, c'est quelqu'un que j'adore. C'est quelqu'un que j'ai entendu sur plusieurs tribunes. Et au-delà de la qualité de la tribune où elle, je l'entends, à chaque fois, je suis resté dans mon parking. À chaque fois, je suis resté avec ma radio allumée pour écouter tout ce qu'elle avait à dire. Je la trouve pétillante. Je la trouve débordante d'empathie. Puis je trouve ça inacceptable qu'elle ait fait 15 ans de radio sans qu'on puisse faire au moins une chronique ensemble. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Elle est spécialiste du comportement humain en studio avec nous. Paul Lévesque, bonjour.
Écoute, c'est une entrée spectaculaire. Hey, merci. Moi, je pense qu'il y a des rendez-vous qu'on a peut-être manqués jusqu'à maintenant.
Oui.
Et là, je m'en venais en me disant, c'est incroyable, ça fait 15 ans qu'on se croise à peu près dans toutes les portes.
Oui.
Et que là,
littéralement, on se croise d'un port tout
ça,
le temps.
Oui. On ne peut pas se manquer parce qu'on n'est pas des mêmes grandeurs. Fait qu'on se voit dans des dimensions différentes. Mais des fois, c'est un bon moment. Des fois, c'était pas un bon moment avant. Moi, je crois ça aussi.
Ouais.
Je crois qu'il y a une question de timing, qu'on était rendu là, puis que à toutes les fois, c'était comme probablement une façon de se pratiquer, à se dire, hey, nous deux, on pourrait peut-être faire quelque chose. Tu sais, des fois, tu as un arrière-pensée quand tu vois quelqu'un, hein?
Moi, j'ai toujours été inspiré par ce que tu fais parce que, de façon générale, puis l'actualité est comme ça, donc la radio est comme ça, on fait beaucoup de négatifs. On fait beaucoup de gris. T'arrives toujours comme un rayon de soleil, je trouve, avec des discussions qui sont humaines. Moi, ça fait quelques années que je trouve que c'est les discussions les plus importantes, au-delà de l'actualité puis de tout l'ouvrage ou la job qu'on a à faire. Je l'ai fait en ouvrant l'émission aujourd'hui. J'ai parlé de quelque chose d'un peu plus personnel, d'un peu plus humain. Puis je trouve qu'à Boulevard, avec les auditeurs, les gens sont très ouverts à ces discussions-là, participent beaucoup puis partagent beaucoup leur vécu. Pas comme on partage des photos Facebook, ça sort sans filtre, là. Autant le positif que le négatif. Les gens prennent le temps d'écrire, puis moi, je trouve ça extraordinaire, puis je suis un peu d'accord, je pense que le timing est bon pour qu'on se parle un peu.
Oui, puis tu sais, quand t'as hâte, là, c'est que t'es à bonne place. Tu sais, quand t'appréhendes pas, t'as hâte, il y a une petite fébrilité, c'est sûr, parce que, écoute, quand tu dis que la plus longue conversation que nous aurons, c'est aujourd'hui en micro.
Absolument.
Puis qu'on ne sait pas parler tant que ça. Long. C'est fou, c'est complètement fou.
Moi, je suis assez contente, je vais te le dire, Paul, parce que quand l'open mic s'est éteint avec Yann, la formule pour qu'on rebrasse les cartes, je me suis dit, ah non, ça y est, on la perd. Quand Don a dit, hey, ça vaudrait la peine qu'on la rapatrie dans le retour, là.
Ça fait longtemps qu'il souhaite être repêché.
Ah, vraiment, ça fait longtemps qu'il en parle.
Les filles sont peut-être jalouses un peu parce que je parle de toi très souvent.
Ah, beaucoup, beaucoup. Oh.
C'est du communautaire, les filles. Tous c'est ensemble. Oui.
Paul, le sujet que tu voulais jaser avec nous autres aujourd'hui, puis écoute, pour plusieurs, c'est le défi d'une vie, là. Recoller les morceaux sans se perdre après un échec.
Oui.
L'échec qui fait le plus mal, c'est lequel habituellement?
Il est très différent d'une personne à l'autre, parce que souvent, l'échec qui va faire le plus mal, c'est celui qui est associé à nos valeurs. Donc, si ma valeur, c'est la famille, le crash, parce que moi, un échec, c'est un crash. C'est un crash émotif. Donc, si ma valeur première, c'est la famille, le crash qui va me faire le plus mal, c'est un échec familial. Si c'est monétaire, que ma valeur est monétaire, assurément, ce sera associé au crash le plus souffrant, d'après moi.
Est-ce que c'est toujours le premier crash, le premier échec dans nos valeurs qui est le plus dur à surmonter?
Ça dépend.
La première peine d'amour, par exemple.
Ben, je pense que les premières fois sont toujours des fois vierges. C'est-à-dire que tu n'as pas de répertoire. Moi, je pense que quand tu vieillis, puis ça, je l'ai souvent dit, il y a des parties de ton corps qui s'affaissent. Mais au pourrata, il y a d'autres choses qui s'élèvent, ça s'appelle la sagesse. Dieu merci, il y a de quoi qui s'élève. Parce qu'il y a des fois, tu n'es pas fier de voir baisser le reste. Puis, ce que tu sais, c'est que la sagesse vient avec ton répertoire. Et plus tu vis, plus tu as des répertoires de réussite et d'échec. Donc, quand c'est ta première peine d'amour, tu n'en as pas de répertoire. Tu n'es pas capable d'aller fouiller et dire, ben, je vais en sortir vivant.
Fait que c'est plus marquant.
Ben, tu penses que tu vas en mourir. Hein? Vous remarquerez que vos premiers crashs, c'est la fin du monde. Ouais. T'as pas de répertoire qui te dit, regarde, tu l'as déjà vécu, ma belle, puis t'en es sortie. Ce qui tue pas te rend plus fort, disait ma grand-mère. Fait que
tu l'as pas vécu, tu le sais pas, là.
Tu le sais pas, tu comprends? Fait que c'est pour ça que, oui, je pense que les premières fois sont assurément celles qui vont frapper le plus. Mais, à l'inverse, si ça frappe toujours à la même fois, ça peut t'anéantir.
Ouais.
Si t'es rendu à ta quatrième peine d'amour, tu vas dire que c'est j'ai fait ou j'ai pas fait.
Il y a des gens qui traînent ça très longtemps, puis on dirait que des fois, le plus dur par rapport à un échec, c'est peut-être quand on compare aux autres. Ouais, mais lui, il est arrivé la même affaire, puis deux semaines plus tard, tout était correct, fait que c'est moi le problème, dans le fond.
Bien, je te dirais qu'on a un esprit de comparaison facile.
Oui.
C'est naturel, tu sais, de regarder autour.
Pourquoi?
Bien, je pense que c'est une façon d'aller se valider. D'ailleurs, on fait la même chose à l'épicerie. Je ne sais pas si vous faites ça. Quand tu veux acheter un beau morceau de n'importe quoi, un légume, tu vas comparer, dire, OK, ça, ce paquet-là est meilleur. Ouais. Tu sais, il y a un instinct de comparaison, justement, pour aller vers le meilleur.
Mm-hmm.
Fait que souvent, tu te compares des fois pour t'inspirer. C'est pour ça que les influenceurs, ils sont si populaires. Parce que... Mais si tu te compares à ta perte, ben là, tu sais, il y a des gens qui vont trouver que tous les autres sont toujours meilleurs qu'eux. Et ça, on appelle ça des victimites.
Mmh.
On pourra venir en reparler, là. Les victimites, c'est ceux-là qui, justement, vont utiliser la comparaison pour constamment se rabaisser. Mais se rabaisser devient une façon d'attirer. La sympathie, de rien foutre, hein, de dire, ben moi, pauvre de moi.
Se complaire dans son malheur.
Se complaire dans son malheur, absolument.
Est-ce que ce qu'on laisse paraître d'un échec va être très variable? Parce que tu sais, tu disais, des fois, on regarde les autres, mon Dieu, ça a l'air d'être plus facile de s'en remettre. Est-ce qu'il y en a qui préfèrent jouer la carte de ça n'a pas été si pire que ça, puis de simplement pas l'admettre que ça a été dur, un échec?
Absolument. Tu sais qu'il y a 8 styles, puis on pourra... Écoute, je suis en train de créer des besoins, là. Je pourrais revenir vous en parler. Il y a 8 types réactionnels. Okay. Donc, selon qui on est, on a une tendance. Donc, par exemple, là, tu vas reconnaître peut-être des choses qu'on a déjà jasées. Les caverneux, par exemple. OK? Les caverneux, c'est des gens qui sont beaucoup plus renfermés. Et quand ils vivent quelque chose comme un échec ou quelque chose qui va les secouer, ils vont aller dans leur carapace. Ils
Véro, es-tu caverneuse? Totalement. Absolument. OK, c'est bon. Oui, je comprends.
C'est une évidence.
Donc, le réflexe, c'est de dire, moi, je m'en vais dans ma caverne, j'ai besoin de... Mm-hmm. C'est ni bien ni mal, là. C'est notre façon de réagir.
Superman est de même aussi, en passant. Oui.
Oui, Superman.
Ah oui, il avait sa forteresse de la solitude.
Ben, voilà, j'ai ça moi aussi.
Puis, il y a à l'inverse, par exemple, je sais pas, moi, on pourrait prendre le requin. Le requin, c'est l'attaque. Donc, quand je ne vais pas bien,
je mords.
J'ai un petit seuil de tolérance, puis je mords tout ce qu'il y a autour. Puis c'est comme s'il fallait que je crache mon venin pour crier ma peine. Fait que, tu sais, il y a 8 façons de réagir, puis souvent, ça va avec notre personnalité.
Paul, moi, les plus grands échecs que j'ai eus dans ma vie, c'est des peines d'amour.
Oui.
Puis j'ai réussi à passer à travers, mais je sais pas comment vraiment. Tu sais, le temps arrange les choses à un moment donné. Tu fais de la thérapie, tu rencontres d'autres personnes, tu te connais un peu mieux. Mais je suis pas capable de trouver la recette qui fait en sorte qu'à un moment donné, j'ai réussi à passer à un autre... À d'autres choses ou à être capable de me reconstruire, parce qu'on dit se reconstruire morceau par morceau. Oui. Y en a-tu une recette que tu connais ou que tu es capable de nous indiquer, de dire...
Au moins une recette de base. Là.
Ouais, c'est ça.
Bon, je vais vous donner les ingrédients. Je me suis arrêtée là-dessus parce que quand je prépare une chronique, malgré toutes ces années-là, ben je la prépare encore plus. Pourquoi? Parce que les gens s'attendent encore plus. Tu sais, quand je prépare une conférence, les gens... ils s'attendent à quelque chose. Fait que je suis obligée de me préparer encore plus. Tu sais, c'est pas moins, c'est plus. Mm-hmm. Donc, je me suis interrogée sur, à travers tout ce que j'ai appris jusqu'à maintenant, à travers ce que les humains m'ont appris, vous sortir les éléments essentiels quand on a besoin de recoller les morceaux. Mm. Vous pourrez peut-être voir si vous l'avez fait d'instinct ou comment... Tu sais, chacun a sa recette comme une sauce à spaghetti. Mais il y a une recette de base.
Okay.
On met toujours bien des tomates, du bœuf haché, puis... Hein?
Bon. Ça reste une sauce à
spaghetti. Idéalement.
Oui, idéalement. Donc, une des choses les plus importantes, c'est parfois, il faut juste s'écrouler sans honte. C'est le début de la guérison. Tu sais, des fois, quand tu as vécu un choc ou tu as vécu quelque chose ou tu as déboulé un escalier, quand tu te relèves, la première chose que tu vas dire aux gens, c'est « Donnez-moi un petit peu de temps.
Mm. »
Juste pour te ramasser, tu sais. Mm-hmm. Donc... quand on vit dans une société comme actuellement qui s'appelle, moi je l'appelle Google Mania, tout est rapide, hein?
Oui.
Faut que tu aies vécu un deuil en dedans de 3 semaines, faut que tu aies vécu... Des fois, les gens qui me consultent disent, Paul, fait 3 mois puis je parle encore de mon mari qui est mort, j'espère. Tu l'es pas une deuxième fois. Non, mais on peut-tu se donner du temps dans notre société?
On veut tellement la solution rapide à tout, hein?
On veut des... Souvent, on va me dire, Paul, donne-moi des trucs. Peut-être un petit peu, là. Moi, tu sais, je suis pas chou homme d'épaule, là. Je donne pas des trucs, là. Je donne des pistes de réflexion puis je donne des points de repère. Fait que la première chose, c'est peut-être de se dire, je vois pas bien, là. Puis je peux-tu juste me donner un peu de temps pour me déposer?
Mm-hmm. Pleurer un peu.
Mm. Pleurer, crier, rien. Des Tomber fois, c'est rien, t'es stoïque. Mais, puis,
le grand vide.
Le grand vide, mais c'est normal d'avoir juste besoin d'un peu de temps puis d'espace. Tu sais, quand ça bourdonne, là, des fois, moi, j'ai tellement entendu d'affaires, j'ai juste besoin du silence.
Ouais.
J'ai besoin de rien. Fait que la première chose, c'est juste de dire, accepte que t'y vas pas bien. C'est normal de ne pas aller bien.
Puis juste ça, ça peut être long, puis ça peut durer des années. Tu peux te droguer à la routine de te dire, le cadran sonne le matin, j'ai des responsabilités, j'ai des choses à faire, j'ai des enfants, j'ai une conjointe, j'ai un conjoint, j'ai une job, puis tout ça. Puis je me grise à ça un peu pour dire, ben tu sais, avec le temps, à un moment donné, ben je vais passer à autre chose. Je vais réussir à oublier cet échec-là. Mais on dirait que tant que le deuil n'est pas vécu, ben ça peut être 3 ans plus tard, ça peut être même 5 ans plus tard que tu commences ce parcours-là, puis tu fais juste retarder le début du processus.
On n'a pas le choix. Moi, je pense que Moi, dans ma vie, jusqu'à maintenant, le mot le plus important, c'est vérité. Des fois, ça froisse, des fois, ça dérange, mais avoir l'heure juste par rapport à soi-même nous aide juste à guérir plus vite. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment je me sens? Qu'est-ce qui est arrivé? Comment je peux faire autrement? Tu sais, se poser les vraies questions pour... Puis ça n'a pas besoin d'être long, là. C'est pas besoin d'une thérapie, des fois, mais juste de se donner ce temps-là.
Ouais.
Puis à travers ça, une autre chose importante, c'est d'éviter l'auto-sabotage.
Eh hey, mon Dieu! On est une gang à être bon là-dedans.
L'auto-sabotage, oui. Tu peux donner un cours là-dessus.
Oui, puis pendant que tu fais ça, tu fais du surplace.
Ouais.
C'est un passage de ta vie. C'est pas une définition de ce que t'es. Un échec, c'est pas toi. C'est un passage de ta vie. Puis on est porté à se saboter. Bon, toute l'énergie que je prends à me saboter, est-ce que je l'ai avancée? Non.
Qu'est-ce que tu entends par auto-sabotage?
Te culpabiliser. Donc, le mot coupable, c'est le mot le plus important dans le mot sabotage. J'ai été un bon à rien. Puis,
c'est de ma faute.
C'est de ma faute.
Je mérite d'être malheureux.
Je mérite d'être malheureux. Puis,
je cours après.
Oui, tu sais. L'auto-sabotage, au fond, c'est toutes ces phrases assassine que tu te donnes, puis qu'au bout du compte, fais juste te garder dans le fossé.
Je suis malheureux, fait que rendu là, aussi bien de virer une brosse. Je suis malheureux, fait que rendu là, aussi bien de prendre la drogue, aussi bien de scraper ma relation actuelle,
bon.
Aussi bien. C'est un peu ça de l'auto-sabotage.
Ben, ça te justifie, hein?
Ouais.
Puis le sentiment de culpabilité, c'est que tant que tu cherches des coupables, tu cherches pas des solutions. C'est la différence entre être en réaction puis en action. Quand tu es en réaction, tu cherches des coupables, tu es négatif. T'sais, tu restes dans le bouillon, dans l'eau du bain que tu n'as pas tiré le bouchon. Mais quand tu es en action, tu commences à dire, attends un petit peu. Là. Oui, c'est vrai, j'aurais pu faire ça, ça, ça. Maintenant, je fais quoi? Je débarque de la trampoline. Tu sais, se culpabiliser, c'est sauter sa trampoline. Tu vas être où dans 2 ans?
À mettre place.
Tu vas être brûlé raide.
Aussi, oui!
Tu vas être brûlé raide, un trou dedans, puis tu n'auras pas avancé. Tu sais? Fait que l'auto-sabotage, ça peut être jusqu'à la limite utile pour ne pas avancer parce que tu ne sais pas où aller.
Mais pourquoi on est aussi dur envers nous-mêmes, Paul? Parce que tu sais, souvent, je me dis, les affaires que tu dis quand tu fais de l'auto-sabotage, là, probablement que tu ne serais pas game de dire ça à un chum de gars, une jeune de fille. Ce pas des affaires que tu oserais dire à voix haute. Ce qu'on se dit des fois, c'est rough. Là. Mais pourquoi on est si difficile envers nous-mêmes?
Ben, je te dirais que plus tu t'en veux, plus tu n'es pas bien avec ce qui est arrivé, plus tu vas avoir le réflexe de chercher un coupable. Et ce coupable-là, ça peut être toi, mais tu sais, ce venin-là, tu pourrais le cracher sur quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui ne feront pas de l'auto-sabotage, mais vont saboter quelqu'un d'autre. Prenez, par exemple, un couple qui se sépare. Au lieu de se regarder sur qu'est-ce qui a motivé cette séparation-là, tu vas te mettre à trouver le conjoint comme l'unique responsable et coupable, puis là, tu t'acharnes sur lui.
Ouais.
C'est aussi une façon, des fois, de dévier. Quand tu te lances à toi ou aux autres, c'est que tu évites justement d'avancer. Pour moi, c'est comme une façon de, tu sais, de faire du surplace pour justement éviter d'avancer.
Tu restes dans l'émotion primaire aussi. Souvent, c'est de la colère, c'est de la rage, c'est de la peine.
Oui.
Puis ça t'empêche de raisonner puis de prendre le recul nécessaire pour dire « OK, je regarde ça, mais pas pour trouver un coupable ou pour donner une sentence. Je regarde ça pour essayer de comprendre puis essayer d'avancer.
Oui, »
C'est pas
c'est
la même
ça.
Affaire.
C'est pas du tout la même place. Puis Audrey, pour compléter, je dirais l'estime. Un estime boboche, ça attire la critique. C'est comme penser qu'on est tellement pas bon que ça nous méritait qu'on continue l'autodestruction. Puis pourquoi l'estime est fragile? Bien là, chacun a son histoire.
C'est une spirale pareille.
Oui, c'est que l'estime est faible, puis en faisant ça, tu l'affaiblis. Tu comprends?
C'est-tu un chemin qu'on a à faire tout seul, se reconstruire d'un échec? Parce que des fois, on a l'impression qu'on devient lourd. Pour notre entourage, à tout le temps parler de la même affaire, puis hey, reviens-en de ton ex, fait 3 ans, mettons, là, tu sais.
C'est pour ça que souvent, puis là, ce que tu dis, Denis, est tout à fait vrai, c'est qu'on a besoin de ventiler. Le caverneux, par exemple, tantôt, Véro disait qu'elle s'identifiait comme une caverneuse. Elle va avoir besoin de ventiler aussi, mais elle va le faire d'une autre façon. Peut-être qu'elle va utiliser l'écriture. Peut-être qu'elle va
utiliser une...
Non, je vais choisir mes personnes.
Okay. C'est exactement ce que je... C'est qu'elle va choisir dans un petit réseau quelques personnes qui vont porter son message, qui vont prendre le temps de l'écouter, qui vont, tu sais, et on a besoin de ventiler. Puis, des fois, l'écriture, on la sous-estime. Mmh. Hey, c'est plate écrire, Paul, je peux pas croire.
Non, mais on, on écrit à qui? À soi, à l'autre?
C'est ça, la beauté.
Moi, c'est ce que tu veux.
J'appelle ça le cahier de la délivrance. Justement, j'étais avec une cliente là, ce matin, puis on était là-dedans. Là. J'y ai proposé le cahier de la délivrance. Elle dit, c'est quoi ça? J'ai dit, prends-toi un cahier, là. Cute, là. Pas une affaire qui a 8 pages arrachées, là. Va t'en chercher un, puis...
Il est à toi, là.
Il est à toi, tu te l'appropries. Puis, t'écris. T'écris tout ce que t'aurais besoin de dire. Tu te donnes aucune censure. Et c'est rare qu'on se donne aucune censure. Tu peux utiliser le vocabulaire que tu veux, ça n'a pas besoin de se tenir, c'est pas un texte en français. Tu peux vomir, se déposer, parce qu'on sait que mettre des mots nous aide à guérir, sinon on s'étouffe.
Ça peut aussi être une bonne idée de ne pas nécessairement l'envoyer à quelqu'un ce que tu écris.
On ne l'envoie pas, ouais, hein, j'ai oublié de le dire. Oui, c'est très important.
Tu le caches, ce livre-là.
Denis, très important ce que
tu dis. Tu sais, peser sur Enter à 23h20, là, c'est rarement une bonne idée. Ça a peut-être fait du bien à sortir. Ça ne veut pas dire qu'il faut que ça aille à quelque part.
Puis, tu vois, je t'ai...
Hein, j'aurais pu l'écrire, le livre, l'auto-sabotage.
Bien, je sens qu'il y a une expertise.
Une expertise! Wow!
Je vais apprendre à la découvrir.
J'ai vu dans le retour, Paul.
Ah, du vécu.
Puis, il y a quelqu'un qui dit, par le texto, je vais aller directement au point, ma blonde m'a trompée, je ne l'ai jamais traitée de quoi que ce soit, par contre, je suis plus méchant envers moi-même que jamais.
Oui.
Fait que, tu sais, il y a un type de réaction ici.
Bien, je pense que ce que ça génère... Ce qui me vient en tête, c'est le chaudron qui bouille à ail. Et tu prends le couvert et tu le gardes fermé, là. Fermé. À un moment donné, ça va fuiter puis ça éclabousse. Pas toujours à la bonne place, pas toujours de la bonne façon. Moi, je sens qu'il y a beaucoup de colère. Tu sais, on est resté avec plein de vapeurs émotives. À un moment donné, il faut que ça sorte.
Bon. Est-ce que notre éducation, d'où on vient, notre environnement, ça influence notre rapport à l'échec?
Trois tiers. T'es venu au monde avec un bagage héréditaire génétique. Mm-hmm. Deuxième tiers, l'éducation. Troisième tiers, les événements vécus.
Okay.
Donc, ça vient définir ta façon dont tu vas réagir. Mais c'est sûr, posez-vous toujours la question quand tu veux finalement guérir, là. Une des choses qu'il faut que tu te poses comme question, c'est qu'est-ce que j'ai besoin?
Être franc avec soi-même, dans le sens.
Oui, puis pose-toi juste la question, de quoi j'ai besoin? Monsieur, là, je ne sais pas son prénom.
Je l'ai tué.
Oui, c'est vrai. Bon, pose-toi la question, de quoi j'ai besoin ici et maintenant?
Mm.
Puis ce que tu as besoin qui ne te créera pas de problème. Là, j'ajoute, parce que des fois, il y en a qui disent « j'ai besoin d'aller voir mon ex », je donne ça comme exemple, puis dit « cracher la merde que j'ai dans le cœur ». Bon, ben c'est ça. De quoi j'ai besoin, mais qui ne me causera pas un problème de plus. Parce que des fois, ce que j'ai besoin, c'est pas ce que j'ai besoin.
Le défoulement à court terme.
J'ai-tu besoin d'une vengeance? Non.
Ouais.
C'est qu'est-ce que j'ai besoin qui me ferait du bien puis qui ne crée pas un autre problème?
Puis pourquoi on a autant de misère à parler de nos échecs en société? J'ai comme l'impression qu'on est gêné de ça, faut garder ça, faut être le plus parfait possible.
Pourtant, je trouve là, que quand on ouvre la porte à ces discussions-là, le monde s'ouvre naturellement, puis à se comparer, des fois on se console, mais des fois on se sent stupidement moins seul aussi.
Oui, écoute, c'est les discussions que le monde aime le plus. Pense aux nouvelles. Dans certains pays, on a essayé de faire des bonnes nouvelles. Ça n'a pas pogné.
Oui.
Audrey, t'es censée faire ça dans notre show. Ça dure une fois.
Ah, vous l'avez essayé?
Oui.
Ben oui, mais c'est ça. C'est ça. C'est que plus on entend parler de vraie vie. Moi, là, je vais donner un exemple, OK? Puis là, peut-être que je vais me faire lapider tout de suite la première... je suis capable, j'ai les épaules lâches. Non, mais tu sais, les photos de pommes, là, qui vont commencer sur Facebook.
Non, c'est bon, ça.
Je dis pas qu'ils sont pas belles, je les regarde, je trouve ça magnifique. Mais t'as pas envie de les voir. Pourquoi? Parce que c'est du bonheur.
Mm-hmm.
Puis que peut-être qu'avant la photo, ils sont tous lancés des pommes, puis ils se sont dit, place-toi pas de même, puis... On serait curieux de voir l'avant-photo. Moi, je me dis tout le temps.
Des fois, même l'après-photo.
Oui, absolument. Fait que des fois, on voit du bonheur figé.
Ouais.
Puis on a l'impression qu'on est tout seul au monde à avoir des petits malheurs ou des grands malheurs. Mais il n'y a rien de plus satisfaisant que quelqu'un qui nomme qu'il ne va pas bien, bien, pas de façon suicidaire, qui le nomme, puis qui dit par où il est passé, puis comment il s'en est sorti. Puis là, tu fais, bon, je suis pas seule au monde. Bon, ça me donne comme...
On l'a vécu en début de show. Oui,
mais la clé de comment on en est sorti, je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a personne qui veut juste entendre des histoires de gens qui ont des échecs puis qui s'en sont pas remis encore.
Non,
fait que non. C'est peut-être pour ça qu'on en parle moins publiquement. Là.
Bien, en fait, on a besoin d'en... Tu sais, souvent, je vais donner comme référence Nelson Mandela, que j'aime d'amour. Il l'a pas su avant de mourir, mais je l'aime d'amour. Parce que son histoire, là, c'est pas une belle histoire.
Non.
Mais c'est une belle histoire. Parce qu'elle finit de façon incroyable. Mm-hmm. Elle donne de l'espoir. Moi, je pense que les histoires qui pognent le plus, c'est celles qui donnent de l'espoir. Ça a mal été, mais regarde, il y a de l'espoir.
Mais attention, puis ça, j'aimerais ça qu'on aborde ça pour compléter notre conversation. Je trouve que des fois, à se comparer, il y a un effet pervers. Puis je vais prendre un exemple. J'ai vu un texto. D'ailleurs, dans ces conversations-là, gênez-vous pas, hein, 418-971-1021, partagez. Tu sais, quelqu'un qui dit, moi, la plus grande épreuve que j'ai eue dans ma vie, c'est me remettre du décès d'un de mes enfants. Tu sais, moi, je lis ça, là. Je suis en peine d'amour, puis j'ai de la misère à me remonter, puis je me trouve navet en tabarnouche.
D'avoir de la peine, ouais.
Oui, mais je trouve que des fois, ça fait prendre une drôle de traque, parce que là, tu te dis, ben moi, je suis pas fait solide, puis moi, je suis pas bon. Regarde cette personne-là. Elle vit des épreuves qui sont bien pires que les miennes, puis ainsi de suite. Puis là, on s'enfonce dans une spirale négative.
T'as raison, Denis, mais moi, je pense que quelqu'un qui agit comme ça va prendre n'importe quoi pour agir comme ça.
OK.
Si c'est pas cette histoire-là, ça en sera une autre.
OK.
Quelqu'un qui est porté à avoir ce réflexe-là va juste surveiller la première affaire qui va l'amener là-dedans.
La première opportunité.
La première opportunité pour arriver là-dedans, tu sais. Mais en fait, tu sais, le bonheur, c'est cucu, mais c'est rien que ça qu'on veut. Non, mais c'est cucu, là. Quelqu'un parle du bonheur, c'est cucu, mais en même temps, c'est ce qu'on veut. Mais c'est pas un long fleuve tranquille, la vie. Puis... Justement, tu sais, je réfléchissais puis je me disais, parfois, il faut perdre pour comprendre ce qui compte.
Oui.
Puis, vivre un échec, là, et si l'échec était, puis ça serait une belle façon peut-être de conclure, et si l'échec était juste une pause. Des fois, il t'arrive un échec, pensez, des fois, tu viens de perdre ta job, là. Tu dis, c'est l'échec de ma vie, mais peut-être que c'est une pause. Peut-être une pause obligatoire. Einstein a dit, dans le désordre, on refait un nouvel ordre. Hein. Peut-être que tu avais besoin de cette pause-là parce que tu n'étais plus à bonne place, parce que tu avais besoin d'autre chose. Des fois, l'échec, ça peut être juste une pause. Des fois, ça peut être aussi une opportunité. Dans les difficultés, il peut naître des opportunités. Tu ne l'as pas vu. C'est pour ça que les gens me consultent, parce qu'ils ne le voient pas. Mm-hmm. Moi, je le vois à leur place. Puis des fois, c'est une leçon de vie. Des fois, tu as... Moi, là, il m'est arrivé des affaires. Des fois, c'est un maudit gros coup de pied. Esprit que ça fait mal. Je suis tombée à quatre pattes à terre, 1 000 plus loin. Mais, maudit que j'ai appris. Et c'est un peu là qu'il faut aller. Les échecs doivent nous aider à quelque chose. Quand tu vis un échec, il faut au moins que ça te serve à quelque chose. Puis tu sais, on parlait de l'horreur de perdre un enfant. J'ai malheureusement accompagné des parents qui en ont perdu. Mmh. OK? Et à travers ces horreurs émotives, t'apprends des choses. Puis je veux pas que ça arrive à personne. Tu sais, je suis moi-même mère. Puis... Mais si tu l'as vécu, même la gravité la plus importante, il faut au moins qu'on s'en serve. Des fois, il y a des parents qui s'en ont servi pour aider d'autres parents. C'est grandiose. Mmh. Tu sais, j'en parle. Tu sais, j'ai des frissons parce que je me dis...
Hey, c'est tout un don de soi, là.
C'est tout un don de soi. Puis ils guérissent à travers la capacité de donner aux autres. Mais même dans le grandiose de la douleur, on peut se servir d'une partie de cette souffrance-là pour devenir des meilleurs humains, puis pour aider justement, donner au suivant, grandir. Puis tu sais, j'accompagne des gens qui ont le cancer, là. Puis ils me disent, j'ai jamais été aussi heureux. Hey, tu vas me dire, Paul, qu'est-ce que tu dis?
C'est paradoxal. Ouais.
C'est paradoxal. Oui, on peur de mourir. Oui, il y a de l'anxiété. Oui, oui, oui. Mais ils me disent, avant, là, je me disais, je commençais ma journée en disant, bon, encore une journée de merde. Mm. Là, l'odeur du café fait. Hey, peut-être qu'un jour, je ne la sentirai plus. Maudit que ça sent bon.
L'urgence de vivre.
L'urgence de vivre. L'échec peut nous amener dans le corridor d'apprécier ce qu'on voyait comme acquis.
Paul, tu vas revenir?
Si vous acceptez que je revienne, pour moi, c'est un rendez-vous incroyable dans la vérité. Moi, je vous ai dit que c'était ça, la vérité et le respect. Puis je pense que je suis à la bonne place. Si vous avez le goût, ça pourrait être un rendez-vous... qu'on...
Hey, oui, je le veux.
Hey, tu me manquais, c'est épouvantable.
Oh, c'est vrai?
Parce que là, là, on sait que Véro est caverneuse, mais moi, je veux savoir ce qu'on est, nous autres.
Ben,
aussi,
Audrey
là.
Est un parc national, si tout le monde est au courant.
Hey, on se dit-tu qu'une prochaine chronique, on les regarde les huit ensemble?
Oui, 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 absolument. Oui.
Très bonne idée.
Absolument.
Génial.
Ça va apprendre à se gérer peut-être à travers ça?
Oui.
Oui, puis à comprendre pourquoi on n'en gère pas d'autres.
C'est bon, je le note.
De comprendre pourquoi on est si dysfonctionnel et fonctionnel à trois. Paul Lévesque, merci
oui,
beaucoup.
Oui, c'est un bonheur.
Paul Lévesque, qui est spécialiste du comportement humain, qui vous parle depuis 15 ans. Et c'était une première dans Le Retour. On ne s'arrête pas longtemps, on revient. Vous êtes à Boulevard, il est 15h33.
Pour joindre l'équipe de Gravel dans